Chapitre 6, dernier chapitre. Titre de ce chapitre, une voix s'est élevée parmi nous. C'était un dimanche. L'air était chargé d'électricité. Dans les rues étroites de Jérusalem, la nouvelle se propageait de bouche à oreille et des frissons d'excitation parcouraient la foule. « Ça y est, le Messie est enfin en chemin. Il va monter sur le trône. Il arrive et vient vers Béthanie. » Voilà le genre de nouvelles que redoutaient les responsables religieux. Ils s'attendaient à quelque chose de ce genre, se demandant à quel moment le maître galiléen allait oser les affronter de face et prendre le pouvoir. Et maintenant, ébranlés par cette nouvelle, ils se hâtaient sur la route de Béthanie, le visage inquiet, la tunique volant au vent. Il y avait bien des raisons à leur inquiétude. À Jérusalem, en temps normal, grouillante de pèlerins venus pour la Pâque, la trompette appelant pour le sacrifice du soir n'attirait que quelques rares personnes. « La foule se presse derrière lui » s'exclamait-il dans leur désespoir. Il n'était pas du tout rassuré non plus d'apprendre que pour la première fois, il venait, non à pied, mais monté sur un âne, la monture réservée au roi. On y était. Il avait choisi le temps de la Pâque où des Juifs venus du monde entier se rassemblaient. C'était brillamment calculé. Et s'il avait été à sa place, ils en auraient fait tout autant. Puisqu'il en était ainsi, ce serait un combat à mort. Il fallait qu'il le fasse taire à tout prix. Et c'était relativement facile. La foule est tellement versatile. Si ses chefs pouvaient parvenir à le faire condamner à la crucifixion, la honte et l'opprobre de sa mort feraient probablement taire la plupart de ceux qui le soutenaient. La procession se rapprochait de Jérusalem, grossissant peu à peu, fleuve bigarré, haut en couleur, gravissant la colline. Si ces religieux étaient inquiets, personne d'autre ne semblait l'être. On ne se rappelait pas avoir vu une telle joie. Si cela voulait bien dire ce que cela voulait dire, l'occupation romaine était sur le point de se terminer. Le rêve allait enfin se réaliser. Israël souveraine, gouvernée par le Messie en personne, riche et bénie, enviée par le monde entier. On aurait dit le retour triomphal d'une armée de vainqueurs, mais on n'avait jamais vu un tel cortège. Il n'y avait pas de vaincus enchaînés, ni de chariots chargés de butins pillés à l'ennemi. Au lieu de cela, la foule semblait composée de gens libérés, des aveugles qui voyaient de nouveau, des paralytiques qui marchaient, des enfants qui avaient appris que le roi en personne avait du temps, et des genoux pour eux. Et le plus impressionnant, c'était cet homme qui était mort un jour, était resté ainsi pendant 4 jours, si bien que même sa sœur ne voulait pas ouvrir son tombeau, même à la demande de Jésus. Il était maintenant là, bien vivant. Cela allait au-delà de toute imagination. Et pourtant, c'était bien arrivé, preuve ultime et absolue que l'homme qui approchait parmi cette foule était Dieu lui-même, ce « Je suis » du 7e jour de la création. « Maître, reprends tes disciples », avait-il dit avec colère, dans Luc 19, 39. Au-delà de la foule, à quelques pas de la crête du mont des Oliviers, la ville de Jérusalem s'étendait sous les rayons du soleil couchant. Au nord-est, le temple, merveille du monde, tout en marbre blanc rehaussé d'or. Même Rome considérait avec révérence et crainte ce bâtiment où de temps à autre on avait senti planer la présence de la divinité. Pendant plus d'un millier d'années, Jérusalem avait été l'endroit où Dieu avait essayé de faire naître un rêve glorieux. Le peuple d'Israël, témoin pour le monde saint, prospère, heureux, protégé par les lois divines, dépositaire de la promesse d'un sauveur pour le monde. C'est là que Salomon avait régné pendant la brève période de gloire où le rêve fut sur le point de se réaliser. Le monde entier attiré et frappé par la sagesse d'un peuple conduit par Dieu lui-même. Et c'est là aussi que, malgré la présence de l'amour divin, le peuple d'Israël avait échoué sur les récifs du péché maintes et maintes fois. C'est là aussi que les prophètes avaient délivré leur avertissement solennel et supplié le peuple pour qu'il se réforme avant qu'il soit trop tard. Les prophètes, tant de prophètes, Jérémie, le fidèle Zacharie qui avait été assassiné sur le parvis du temple et dont le sang tachait encore le sol, Ézéchiel, qui avait imploré pour une réforme, Ésaïe, dont les paroles n'avaient pas été comprises par les chefs spirituels et qui prédisaient les souffrances du Messie. Ils les avaient tous rejetés, et voilà qu'ils rejetaient maintenant celui qui leur avait envoyé ses prophètes. Le rêve s'envolait, et le Fils de Dieu se lamenta. En Matthieu 23, 37, nous pouvons lire ces paroles de Christ. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes, et tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois ai-je désiré rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Le soleil se couchait sur Jérusalem, le jour tombait à sa fin, et avec lui le temps de probation de la ville. Quand le soleil couchant aurait disparu du ciel, le jour de grâce de Jérusalem serait arrivé à son terme, alors que le cortège était arrêté au sommet du mont des Oliviers. Jérusalem avait une dernière occasion de se repentir. L'ange de la miséricorde se préparait à replier ses ailes et à descendre du trône d'or pour faire place à la justice et au jugement imminent. Mais le Christ, au grand cœur d'amour, continuait de plaider en faveur de Jérusalem, bien qu'elle eût dédaigné ses grâces, méprisé ses avertissements et qu'elle fût sur le point de tremper les mains dans son sang. Si seulement Jérusalem voulait se repentir, ce n'était pas trop tard. Tandis que les derniers rayons du soleil couchant s'attardaient sur le temple, sur la tour, sur le fait, est-ce que quelque bon ange n'allait pas la ramener à l'amour du Sauveur, l'arrachant à la ruine? Ville splendide et profane, qui avait lapidé les prophètes et rejeté le Fils de Dieu, qui, par son impénitence, rivait sur elle les chaînes de l'esclavage, le jour de sa grâce était presque écoulé. Lecture dans Jésus-Christ, à la page 571, livre écrit par Ellen White. Le dernier appel à la repentance prenait fin, et la réponse vint rapide et dure. « Maître, reprends tes disciples. » Deux chemins allaient s'écarter l'un de l'autre. Celui du Fils de Dieu qui, une fois sa mission sur terre achevée, retournerait au ciel, là-bas, au-delà de l'infini, où les anges non déchus attendaient l'heure pour l'accueillir, et sur la terre celui de Jérusalem, qui allait poursuivre son destin vers l'horreur et la terreur. Plus de 30 années s'écoulent. Déçus dans leur espoir de libération nationale par le Messie, les Juifs se révoltent contre Rome. Sur le mont du Calvaire, les croix se dressent comme une forêt. Au fatal printemps de l'an 70, le général romain Titus décide d'assiéger Jérusalem en dépit d'une farouche lutte fratricide des factions juives restées à l'intérieur. Du mont Scopus, les 12e et la 15e légion romaine pilonnent la ville, rejointe par la 10e légion de Jéricho. De l'ouest d'Emmaüs, la 5e légion, aguerrie par de nombreuses batailles, marche vers l'est, foulant le chemin autrefois emprunté par Jésus et ses deux disciples. Les armées romaines écrasent le système de défense ouest de Jérusalem et pénètrent dans la ville. Puis, devant la résistance opposée dans le centre de la ville, les soldats creusent un fossé tout autour. Ligne d'attaque continue, dont chaque mètre est gardé par un soldat, attentif, afin que nul ne s'échappe. Pour ceux qui sont à l'intérieur, ce sera un combat sans merci. Ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes, il y avait eu une voix parmi eux, et ils n'avaient pas voulu l'écouter. Et il y a eu une voix parmi nous, pendant plus de 70 ans, elle s'est élevée dans nos rangs, décrivant des événements inaccessibles à notre regard de mortel, d'ange se hâtant entre le ciel et la terre, du grand conflit, de l'amour de Jésus. Cette voix était porteuse de vie. Cela nous est rappelé sans cesse lorsque la science vient nous confirmer ce qui a été dit 100 ans auparavant. Parmi nous se trouvait le don de prophétie. Et comme cela a souvent été le cas par le passé, il s'est manifesté par une personne choisie par Dieu. Une jeune femme de 17 ans, dont l'humble milieu social et le maigre bagage éducatif semblaient la destiner à un obscur avenir. Mais un jour, à la fin de l'année 1844, le rideau s'est déchiré et elle a entrevu une grande vérité spirituelle. Il y avait un sentier, a-t-elle décrit, qui allait de la terre vers le ciel. Chaque pas menait un peu plus haut, et à chaque pas le peuple de Dieu apprenait un peu plus à se reposer sur Dieu plutôt que sur lui-même. Il s'agissait du sentier de la foi. Tout au long de sa vie, elle ne revint jamais sur cette vision. Deux grandes tâches se présentent à nous, dit-elle, nous préparer au retour de Jésus et y préparer le monde. Et grâce à cette foi toute simple, une poignée de fidèles commença à agir comme cette vision le montrait. Ils ne pouvaient en aucune façon faire ce qu'elle décrivait, pas selon les critères humains, mais ils allaient essayer. Ils voyageaient en carriole, à cheval et dans des traîneaux, en train qui brûlait du bois et en bateau à voile. Comment un si petit nombre de personnes pouvait-elle avertir le monde entier? Mais confiance que là était leur mission, elles allaient au moins commencer. Ces gens ne s'arrêtèrent pas avant que le drapeau du message flotte sur l'Europe, sur l'Asie, dans l'air glacé des Andes et sur les plages de sable noir de Tahiti, en Russie et le continent africain. La tâche paraissait impossible, mais ils la commencèrent. Et toujours cette voix leur parvenait et les poussait en avant et leur disait que faire de son mieux pouvait mener à quelque chose d'encore meilleur. Il nous fallait des écoles afin que les jeunes adventistes puissent être enseignés par des professeurs aimant ce message. Il fallait des hôpitaux à la fois pour guérir et témoigner. Il nous fallait des maisons d'édition. Il nous fallait même être capables de former des médecins qui puissent devenir évangélistes dans ce domaine. Enflammés par notre foi, nous avons découvert que rien ne nous était impossible et nous avons accompli toute notre tâche. Tout, sauf le plus grand rêve d'entre tous. Refléter si parfaitement le caractère de Christ dans nos vies que le monde entier allait le reconnaître. Nous avons essayé, et parfois, comme en 1856, le rêve fut à un cheveu de se réaliser. Mais 150 ans se sont écoulés, et nous sommes toujours là, et aujourd'hui, certains se demandent si cela est même possible. Nous pouvons nous poser la question, mais Ellen White, elle, ne se l'est jamais posée, car elle avait vu l'avenir de l'adventisme, un avenir qui reste à écrire. Elle l'a vu au cours d'une vision qu'elle eut le 20 novembre 1857, vision qui lui montra le plan de Dieu pour une Église victorieuse, debout pour le retour du Christ. Elle vit le peuple de Dieu. Il formait deux groupes. L'un d'entre eux priait avec ferveur et angoisse, avec foi, pleurant amèrement et plaidant avec Dieu. Le second groupe se disait aussi peuple de Dieu. Mais il y avait une différence. Il ne participait pas à ses larmes, à ce plaidoyer. Il paraissait indifférent et insouciant. Il ne résistait pas à cette épaisse et sombre atmosphère que les anges du mal répandaient autour d'eux, s'assemblant en grand nombre tout autour et s'efforçant d'aveugler l'Église. Il ne résistait pas à l'obscurité et les anges de Dieu les laissèrent pour se hâter au secours de ceux qui s'opposaient aux anges du mal. Et bientôt, elle ne vit plus ceux qui ne priaient pas. Nous trouvons la description de cette vision dans Témoignages pour l'Église, volume 1, pages 179 à 181. J'ai demandé le sens de ce bouleversement que j'avais vu, et il m'a été répondu qu'il était dû au témoignage direct faisant suite au conseil du témoin véritable de l'Église de Laodicée. Certains ne supporteront pas ce témoignage. Ils s'élèveront contre lui et cela engendrera un bouleversement parmi le peuple de Dieu. De même, cette lecture se trouve dans Témoignages pour l'Église, volume 1. Mais la vision ne s'arrêtait pas là. De nouveau, elle vit ceux qui priaient avec sincérité. Et voici ce qu'elle écrit à ce sujet. L'ange me dit, regarde. Mon attention se porta alors vers le groupe qui avait été bouleversé. On me montra ceux qui avaient pleuré et prié dans un esprit de contrition. Le nombre de leurs anges gardiens avait été doublé. Fin de la citation. On réalise la puissance de cette citation si l'on se rappelle qu'un ange à lui seul a arrêté l'armée syrienne et que 185 000 soldats sont morts dans la bataille. Voilà le genre de protection dont il s'agit. Et pour la protection de ceux qui prient, la garde est doublée. Pas étonnant alors de ce qu'elle vit ensuite, Ellen White. Les saints marchant dans un ordre parfait et d'un pas ferme, tels des soldats en campagne. Connaissant parfaitement leur but, sans dispute théologique, ni questionnement sur la justesse du message adventiste. Comme les apôtres de la Pentecôte, ils étaient tous unis et dans un même cœur. Soldats de la croix en route pour accomplir enfin leur mission, leur visage, bien que marqué par l'épreuve de la scission, brillait d'une glorieuse et céleste lumière. Page 181 à 182. Dans Témoignage pour l'Église, volume 1. Voici un extrait de Témoignage pour l'Église au volume 1 d'Ellen White. Les rangs de cette compagnie étaient clairsemés. Certains avaient quitté le mouvement. Les insouciants et les indifférents qui ne s'étaient pas joints à ceux qui mettaient le prix sur la victoire et le salut en plaidant de tout leur cœur furent laissés en arrière dans l'obscurité, mais leur perte fut bientôt compensée par d'autres qui avaient saisi la vérité. Voilà bien une description qui pourrait convenir au monde actuel. Au début des années 60, lorsque j'étais au collège, il n'était pas très difficile d'abandonner l'adventisme. Newport Beach, Palm Springs et Hollywood Boulevard n'étaient qu'à 1 heure de là en voiture. John Kennedy était à la Maison Blanche. Et tout ce que nous avions à faire pour résoudre la crise des missiles cubains, c'était simplement de demander à Khrouchtchev de les enlever. À cette époque, on pouvait ne pas trop se préoccuper de la vie chrétienne, car les signaux de détresse de l'histoire n'étaient pas en rouge. Aujourd'hui, les choses ne sont pas plus faciles. Lorsqu'on ouvre la porte de sortie du mouvement, on rencontre une crise mondiale. On n'impose plus sa loi aux Russes. Au cours des 25 dernières années, ils ont accumulé environ 4 fois la puissance de tir nucléaire américaine. L'économie craque et se fissure comme un vieux bâtiment fatigué qui porte en lui sa propre force de destruction. Et Hollywood Boulevard disparaît sous la pollution atmosphérique. Lorsque l'on ouvre la porte de l'église pour en sortir, on est susceptible de rencontrer 1 ou 2 personnes intéressées qui demandent « Mais qu'y a-t-il à l'intérieur ?» Est-ce mieux que ce que nous avons ici? Ici, on n'aime pas trop ce qui se passe. Sur le seuil de la porte, un adventiste sera pris de vertige, à la fois mal à l'aise dans l'église et plein de crainte à l'idée de la quitter. Devant un tel dilemme, il pourrait être très tenté, laissant de côté ses normes de vie exigeantes. Une nouvelle théologie, par exemple, qui autorise des normes moins strictes tout en proclamant le salut. Et si quelqu'un, Ellen White par exemple, lui rappelle que ce subtil assemblage psychologique est une erreur. Nul doute qu'il se mette en colère. Donc la vision montra un bouleversement qui entraîna le départ de certains qui furent remplacés par d'autres. Mais dans ce processus, le monde y gagna. Le peuple de Dieu témoigna avec force. Elle demanda ce qui avait provoqué un tel changement dans l'église et l'ange lui répondit « C'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la présence » du Seigneur, le grand cri du troisième ange. C'était donc cela, la pluie de l'arrière-saison et la séparation? La dissidence résulte de la résistance au témoin véritable de Laodicée. Le témoin véritable, c'est la voix de Dieu qui s'exprime par le don de prophétie. Et cette voix s'est trouvée parmi nous. Pour achever l'œuvre, il nous faut d'abord tourner nos cœurs et notre esprit vers la vérité que Dieu nous a donnée. Pas avec désinvolture, mais avec courage, comme si la vie même en dépendait. En faisant ainsi, en agissant par la foi, grâce à la vérité que nous lisons, tout se mettra en place, même ce rêve lointain d'une vie chrétienne victorieuse. La vision continua et se déplaça avec rapidité. Les incrédules, ébranlés par le message puissant de la part du peuple de Dieu, furent tous touchés. Le zèle et la force du peuple de Dieu les avaient réveillés et les avaient enragés. La confusion était dans tous les camps. L'histoire se déroula rapidement jusqu'à la fin des temps. Crise mondiale, mesures judiciaires prises contre les croyants, prières incessantes jour et nuit. Cette vision ne décrit pas précisément les problèmes qui assaillirent le peuple de Dieu, mais ils sont si graves qu'il faut empêcher les anges qui veillent de se porter trop prématurément à leur secours. C'est le temps de troubles de Jacob, et les croyants ne subsistent que par la foi. Bientôt j'entendis la voix de Dieu qui ébranlait les cieux et la terre, poursuit donc Ellen White. Il y a un tremblement de terre puissant. On vit Jésus dans les cieux et le groupe éprouvé, mais fidèle, fut changé en un instant de gloire en gloire. Les tombeaux s'ouvrirent et les saints en sortirent, revêtus des habits de l'immortalité, et ils s'écriaient « Victoire sur la mort et le tombeau ». Le réveil et la réforme avaient enfin préparé le peuple de Dieu pour la parousie. Maintenant, ils pouvaient rentrer vers leur foyer. Voilà l'adventisme, l'adventisme victorieux qui signifie quelque chose pour ce monde. Voilà notre héritage. Si nous le voulons bien, cela pourrait nous arriver. Nous pourrions être cette génération. Pendant près d'un siècle et demi, nous avons fait ce rêve, nous avons soupiré pour son accomplissement, nous avons attendu et nous nous sommes posé des questions. Nous disposons actuellement du moment idéal pour que cela se passe. Tout ce qui doit arriver dans l'histoire pour qu'il en soit ainsi, c'est soit déjà passé, soit est sur le point de le faire. Même la tâche difficile qui consiste à avertir plus de 4 milliards de personnes nous est servie sur un plateau par le biais de l'informatique. Et grâce aux satellites qui peuvent relayer les informations en un instant dans le monde entier, je suis convaincue que certains de nos plus forts témoignages passeront aux journaux d'information du soir à 20h gratuitement, parce que seront devenus un sujet d'actualité internationale. S'il en est ainsi, nous disposons déjà de la structure nécessaire pour avertir le monde en quelques semaines. Un bref moment de préparation spirituelle, l'histoire en attente, toute prête pour des événements finaux rapides. Même le système de médias déjà en place pour toucher la planète entière. Comme cela pourrait arriver vite. Autrefois, une voix s'est élevée parmi nous. Pendant 70 ans, elle a supplié les gens de se tenir prêts pour le retour de Jésus. Elle a souvent été déçue, un jour attristée de voir comme le peuple de Dieu était insouciant par rapport aux conseils qu'il lui donnait. Elle écrivit « Je pleure, rarement, mais en ce moment mes yeux se remplissent de larmes qui tombent sur la feuille où j'écris. » Témoignage pour l'Église, volume 5, page 77. Et elle a ouvertement posé la question de savoir si le don de prophétie pouvait continuer dans ces conditions alors que nous ne suivions pas les instructions déjà reçues. Mais elle n'a jamais renoncé. Elle a souvent été déçue, mais elle n'a jamais abandonné. Pas déçue par l'adventisme, pas déçue par nous. Quelque part, un jour, une génération de croyants allait faire en sorte que cela se réalise et Jésus reviendrait. Tout au long des sombres années qui se sont écoulées, ces mots nous parlent encore et sont aussi clairs et poignants qu'ils le furent en 1900. Ces témoignages pour l'Église, volume 5, page 404-405. Voici ce passage. « Frères, vous à qui ont été révélées les vérités de la parole de Dieu, quel rôle jouerez-vous dans les derniers actes de l'histoire? Êtes-vous conscient de ces réalités solennelles? Vous rendez-vous compte de cette immense œuvre de préparation qui est en train de se dérouler dans les cieux et sur terre, que personne désormais ne temporise avec le péché, source de toutes nos misères, que le destin de nos âmes ne repose pas sur des incertitudes. Si vous négligez ou traitez avec indifférence les avertissements donnés par Dieu, si vous chérissez ou excusez le péché, vous scellez le sort de votre âme. Si le rideau pouvait être levé, vous verriez le plan de Dieu et les jugements qui vont s'abattre sur ce monde perdu. Si vous pouviez voir l'état de votre attitude personnelle, vous trembleriez d'effroi pour vos âmes et les âmes de vos compagnons. De ferventes prières devraient s'élever vers le ciel. Veillez et priez de peur que vous n'entriez en tentation. C'est un verset en Marc 14, 38. Veillez pour ne pas laisser l'ennemi s'approcher comme un voleur. Veillez contre les vieilles habitudes et vos mauvaises tendances, de peur qu'elles ne vous terrassent. Repoussez-les et veillez. Surveillez vos pensées, surveillez vos projets, de peur qu'ils ne soient empreints d'égoïsme. Ayez soin des âmes que Jésus a rachetées avec son sang. Profitez de toute occasion pour leur faire du bien. Marc 13, 36. Veillez de peur qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Une voix s'est élevée parmi nous, et si nous voulons bien lui accorder toute notre attention, nous pourrions bien être sur le point de quitter ce monde rempli d'attentes vaines et nous rendre vers la terre promise. Fin de cet exposé.